aujourd'hui, j'ai regardé que nous avons un nouveau MB après Michel Barnier. Donc, c'est Michel Bourgerie qui lui succède.
Hein, c'est moins de monde.
Oui, mais des passionnés. Oui. Des passionnés, voilà. Voilà. Bon, je pense que tout le monde a été passionné par son intervention. Mais là, donc, nous allons faire un grand focus sur l'Île-Dieu. Avec un homme qui est un peu atypique dans le paysage ilais, puisque en fait Michel n'est pas du tout en fait ilais d'origine. Il est né où donc
à Neuilly-sur-Seine.
Bon. À Neuilly-sur-Seine, voilà. Bon, dans un beau quartier parisien. Il a fait des études d'ingénieur, ingénieur en nucléaire. Il a exercé donc dans l'industrie pétrolière en mer du Nord, donc un homme de l'énergie, avant de créer et de diriger pendant 17 ans donc un département de BNP, c'était pas encore BNP Paribas, un département de BNP spécialisé dans les financements maritimes. Après, Michel est parti à Londres, en fait, où il a exercé pour le compte d'une banque allemande dans le domaine des transports maritimes avant de créer sa propre structure et donc spécialisée donc, dans les financements maritimes. Et puis, aimant beaucoup l'Île-Dieu, ayant en fait une maison de vacances sur l'île, il a décidé, donc il y a 2-3 ans, donc, de venir s'installer comme résident principal sur l'Île-Dieu, tout en continuant à poursuivre ses activités aussi à Londres. Et de fil en aiguille, rencontrant donc le maire, des membres de la municipalité, il lui a été proposé de rejoindre la municipalité pour la nouvelle mandature, celle qui a démarré donc il y a maintenant un an et qui est en place jusqu'en 2026, où il exerce le poste de troisième adjoint en charge des finances et de la transition énergétique. Donc aujourd'hui, le thème de cette intervention, ça va être de nous décortiquer les finances de l'île. Et d'ailleurs, un document va vous être distribué qui servira de support. Il n'y a pas évidemment de PowerPoint, il n'y a pas de grand écran, mais vous aurez chacun un support et qui pourra être utile après pour poser des questions. Et puis, on parlera aussi, évidemment, ces finances, ça sert à quoi ? À financer quel projet ? Mais aussi, notamment, donc, nous parlerons pas mal aussi transition énergétique, puisque c'est sa compétence. Et puis après, évidemment, donc, Michel Bourgerie répondra à toutes vos questions. Donc, première question, comment se fait-il que vous vous retrouvez, en fait, ici, dans cette position, après une carrière qui ne prédisposait pas vraiment, donc, à devenir adjoint au maire de l'Île-Dieu ?
Alors, il n'y a évidemment pas de bonne réponse hein, à ça. C'est le fait du hasard. Il se trouve que j'ai été là au moment où le train des élections municipales passait. Et j'ai pris le train qui était à ce moment-là. On m'a fait monter et laisser monter dans le train. Et je m'efforce d'y apporter ce que je peux y apporter. Alors, en fait, Arnaud disait le sujet, les finances et les grands projets de la mairie. Alors, au début de notre discussion, ce n'était pas tout à fait articulé comme ça. Parce que la vraie question, c'était de dire mais qu'est-ce qu'ils font avec tout l'argent qu'on leur donne dans nos impôts ? C'était, vous voyez, pour résumer un petit peu. Alors, c'est exactement la question que je me suis posée en rejoignant l'équipe municipale. Parce que vous êtes tous lecteurs de la Gazette, j'imagine, et d'autant qu'on a la principale et unique d'ailleurs pratiquement rédactrice de la Gazette parmi nous, qu'on peut applaudir effectivement. Et vous avez certainement lu avec intérêt les comptes rendus du conseil municipal qui explique la discussion budgétaire et tout ça. Bon, et vous avez eu la même réaction que moi, c'est incompréhensible. Je vous le confirme, ça n'a aucun sens. Donc les chiffres que vous voyez sur les déficits, les excédents et tout ça, si vous voyez, en deux mots, la comptabilité publique française est une construction intellectuelle qui est tout à fait remarquable, qui est très logique, très cohérente, mais qui est inexploitable. Enfin, je parle sérieusement, hein. C'est très rigoureux comptablement, mais on ne peut rien en faire. Et je suis confronté à cette difficulté, pour moi qui venais du capitalisme sauvage anglo-saxon, je me suis vraiment creusé la tête pour essayer de trouver un moyen de comprendre ce qui se passait. Et c'est ce moyen que je vais partager avec vous dans une petite, avec une petite bande dessinée tout à l'heure. Alors, avant d'arriver là... j'ai essayé, si vous voulez, d'élargir le sujet à c'est quoi le service public sur l'île Dieu. Alors, on va juste faire une petite enquête d'opinion, hein, très rapide, vous levez la main. Qui est-ce qui pense qu'il n'y a pas de service public sur l'île Dieu ? Bon, alors, deuxième partie de la question. Qui est-ce qui pense que le service public mobilise entre 1 et 100 personnes sur l'île Dieu ? Entre une personne et 100 personnes. D'accord. Alors, entre 100 et 200. Entre 200 et 300. Bon, bah écoutez, la bonne réponse, c'est à peu près 300 personnes. Et maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. On va vous distribuer un petit papier. Alors, je suis... Merci. Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait le nombre exact d'exemplaires, mais bon, on va regarder ça. Hein. Il n'y a pas de problème. Et en fait, le service public sur l'île Dieu, je vous donne les grands chiffres, c'est 300 personnes. Et ça coûte à peu près 30 millions d'euros par an. Pour faire tourner l'île. 300 personnes, c'est 100 personnes à la mairie, une petite centaine de personnes à l'EHPAD, aux EHPAD, une petite centaine de personnes à la compagnie maritime, et puis pas mal d'autres gens, enfin on balayera ça tout à l'heure. Donc ce sont les ordres de grandeur dont on parle. Si vous voulez prendre le papier, le premier élément, c'est le cœur du réacteur. C'est la baignoire, effectivement. Voilà, et c'est tout le problème, c'est de transcrire la comptabilité publique en termes de baignoire. Il y a combien qui rentre d'un côté, combien qui sort de l'autre et combien qui reste à la fin de l'année. C'est à peu près ça. Et le cœur du réacteur, c'est ce qu'on s'appelle en jargon ici le budget principal. Alors le budget principal, si vous voulez, c'est ce qui fait qu'il y a un service jeunesse. C'est ce qui fait qu'il y a un service jeunesse, une restauration scolaire, du périscolaire, un complexe sportif, un service hygiène et propreté, des services techniques de voirie, d'environnement, des ASEM dans les écoles, un CCAS qui fonctionne, tout ça, c'est le budget principal. Et le budget principal, comme vous voyez, il y a quelques grandes masses. Il y a ce qui rentre, c'est les impôts et les taxes. Et en fait, vous voyez, j'ai mis en rouge ce qui était à la main de la mairie. Et vous voyez que la main de la mairie, elle ne contrôle pas grand-chose, en fait. Elle a un petit droit de regard sur les taxes d'habitation, les taxes foncières. Elle perd les taxes d'habitation des résidents principaux. Et le reste, c'est les dotations de l'État. Oui, c'est quand même 3 millions et quelques. Et puis le produit des services, alors le cinéma, la billetterie, les choses comme ça, bon, ce sont des relativement petits montants. Alors ça, c'est ce qui rentre dans la baignoire. Et ce qui sort de la baignoire, bah, ce sont des choses qui sont quasiment incompressibles et sur lesquelles il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Vous avez des charges de fonctionnement parce qu'il faut de l'électricité, du carburant, tout ça. Bon, ça, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Vous avez des charges de personnel parce que quand on a 100 personnes, il faut les payer. Ça coûte à peu près, à peu près 5 millions d'euros par an. Vous avez un petit peu d'intérêt de dette, vous avez des choses, des dotations qui rentrent par le haut, qui ressortent par le bas. Ne me demandez pas pourquoi, c'est les merveilles de l'administration centrale. Et puis vous voyez, en pointillé, en dessous de la baignoire, en pointillé rouge, il y a un certain nombre de subventions. Et ça, c'est à la main de la mairie. Et la mairie, elle subventionne pour à peu près 1,5 million d'euros par an différentes associations. Le CCAS, la régie de transport des petits bus, que oui, c'est le comité, centre d'action sociale, voilà. Donc des subventions aux associations pour un peu plus de 200 000 euros. Enfin, voyez ça. Alors ça, c'est effectivement à la main de la mairie. Et alors, lorsque vous allez faire tranquillement chez vous la différence entre ce qui rentre et ce qui sort, bon, vous voyez que en gros, selon les années, il va rester dans le fond de la baignoire à la fin de l'année. Il reste entre 1 et 2 millions d'euros. Bon, ça dépend des époques. Hein. Et en fait, avec ces 1 et 2 millions d'euros, bah, c'est comme à la maison, quoi. Une fois que vous avez payé toutes vos dépenses courantes, bah, vous investissez, vous agrandissez la maison, vous achetez une nouvelle voiture. Bah, ici, c'est pareil. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cet excédent qui va rester ? Eh bien, on l'investit. Et donc, j'ai mis en dessous les principaux projets que vous connaissez, donc l'hôtel de ville, le centre technique municipal, le projet du Petit Chiron, qui lui est un petit peu moins avancé. Bon, et vous voyez que l'unité d'investissement, c'est 3-4 millions à chaque fois.
Amener à revenir peut-être tout à l'heure un peu sur ces projets.
Voilà. Bien sûr, oui, je les reprendrai. C'est le pôle culturel, oui, c'est le pôle culturel, pardon. Et le seul centre... Absolument. C'est le pôle culturel. Le pôle culturel, oui, j'aurais dû l'expliciter. Et en fait, vous voyez que... Et c'est un des grands savoir-faire des municipalités, c'est un des très grands savoir-faire de cette municipalité précisément, c'est que pour aller... fabriquer des engins comme ça, qui coûtent beaucoup plus que ce qu'on a dans le fond de la baignoire, eh ben, il faut aller chercher des subventions. Et chercher des subventions, c'est une activité en soi. C'est un vrai savoir-faire parce que le système de subvention français, il est très très compliqué. Si vous voyez, il y a 4000 guichets payeurs différents en France. Donc il faut trouver le bon, il faut être dans la bonne région, sur le bon sujet. Je vais vous donner un petit exemple. On voudrait rajouter une classe à l'école. Bon, vous vous dites, on va faire une classe, on va faire quatre murs, un toit, on met un tableau noir, une boîte de craie, un petit peu de chauffage, et puis ça va être bien. Ben non, pas du tout. Parce qu'en fait, ça, c'est pas subventionné. Mais par contre, si vous voulez être subventionné, il faut que vous utilisiez des matériaux biosourcés, parce que là, vous tombez dans la poche matériaux recyclables. Donc ça, c'est une ligne de financement particulière d'un ministère donné. Vous allez améliorer l'efficacité énergétique. Ça, c'est un autre ministère qui va vous subventionner pour faire le doublage des parois et l'isolation du toit. Et pour peu que vous rajoutiez la cantine juste à côté et que ça rentre dans un circuit court d'alimentation pour les enfants, là, vous avez encore un troisième volet de subvention. Et ça, c'est un vrai savoir-faire et c'est super compliqué. Mais on y arrive quand même un petit peu. Vous voyez que, en fait, globalement, les investissements dont il est question, vous voyez par exemple un équipement comme le Petit Chiron, il est subventionné à 40% par l'État au titre de la culture, 10% par la région, 10% par le département. Donc finalement, la charge financière, alors vous me direz, c'est toujours notre argent, d'accord, mais ce n'est pas le même. Mais donc la charge financière pour la commune est bien, bien moins importante et c'est tout l'enjeu. Du travail des agents de la commune et en particulier du service financier. Alors, bon, on ne va pas rester des années dans la baignoire. Bon, il y a un autre budget qui est assez utile pour nous tous, qui est celui de l'assainissement, donc du traitement des eaux usées. Donc là, vous voyez, c'est la page suivante, numéro 3. Donc vous usagers, vous allez payer une facture d'eau et de traitement d'eau. Donc l'ensemble des usagers sur l'île, ça représente une contribution d'un légèrement supérieure à 1 million d'euros. 1 million d'euros que vous payez à la SOR, comme tout le monde. Et laquelle SOR a des charges d'exploitation pour faire tourner son usine de traitement qui est en bas de la, juste à côté de la plage des Roses. Et la SOR nous redonne, c'est la flèche horizontale pointillée en rouge, nous redonne à la mairie à peu près 600 000 euros. Et à partir de ces 600 000 euros, c'est la mairie qui va entretenir les dizaines de kilomètres de canalisation et d'égouts qui remontent tous à la préhistoire et qui demandent du remplacement, qui ont des fuites dans lesquelles vous avez vu les deux projets, le projet qui est en dessous, il y a eu des stations de pompage qui ont été faites sur le quai Carnot en face du bar du centre. Tout ça coûte là aussi des millions d'euros à chaque fois. Et là aussi, il faut aller chercher des subventions, en l'occurrence l'agence de l'eau qui a subventionné ça à 30%, le département, la région, etc., etc. Autre projet qui est en cours, là pour l'instant, c'est pour ça que vous voyez les pourcentages sous forme de points d'interrogation, c'est le projet d'installer un gazéifieur qui va aider à sécher les boues de la station de traitement de façon à éliminer une bonne fois pour toutes ces odeurs qui sont quand même très incommodantes pour les gens qui sont sous le vent. Alors, autre exemple, puisque là, je me suis concentré sur ce que les uns et les autres nous payons directement en tant qu'individus. Donc, on paye tous une redevance incitative pour les ordures ménagères. Alors, là aussi, il n'y a pas de miracle. Ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre, parce que ça coûte cher, un système de traitement des ordures. Donc, nous tous, collectivement, nous payons à peu près 2 millions d'euros de redevances incitatives. Enfin, toute personne confondue. Les professionnels apportent en déchetterie les matériaux qu'ils ont démolis. Ça rapporte à peu près 200 000 euros. Puis il y a 200 000 euros de ventes diverses et variées. Et en face de ça, on a des vrais coûts. Et ce sont des vrais coûts qui sont très, très peu compressibles. Il y a des coûts de collecte, c'est-à-dire le camion de Suez qui passe devant chez vous. Ben, le camion, si vous voulez, que vous soyez là ou pas là, le camion, lui, il est là. Ça, c'est sûr. Et en fait, toutes les semaines, il va venir vider les packs de collecte qui sont à Super U ou sur le quai de la Chapelle. Donc tout ça, c'est des camions, des gens, une usine de traitement derrière. Je vous engage à aller visiter l'usine de traitement des ordures de la Marèche. C'est tout à fait intéressant. Je veux dire, c'est des gros, gros, gros équipements. Je veux dire, ça se fait pas juste avec un seau et une pelle. Hein. C'est pas de cet ordre de grandeur. Alors ça coûte 700 000 euros par an. Après, une fois qu'on a ramassé les ordures, faut les emmener sur le continent. Donc, faut les mettre dans un bateau. Dans une benne qui va dans un bateau, et puis de l'autre côté, on prend la benne pour la mettre sur un camion qui va au centre de traitement, je ne sais plus où, au beau milieu de la Vendée. Ça, c'est le syndicat départemental qui s'appelle Trivalis, que vous voyez ici. Ça coûte 500 000 euros par an. Et après, il y a la partie des déchets verts. Donc tout ce qui produit le compost et sur laquelle vous ramenez vos gravats et autres souches, ça c'est une unité qui coûte à peu près plus de 300 000 euros par an pour faire tourner, pour fabriquer le compost et la terre végétale, etc. Donc le seul moyen, si vous voulez, de réduire tous ces coûts-là, c'est de diminuer les volumes. Parce que moins il y a de volume à traiter, moins il y aura de coûts de camions, d'usines et de transport, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a constaté lorsque la redevance incitative a été mise en place il y a 3 ans maintenant. Il y a une chute des tonnages qui est impressionnante. Les tonnages, globalement, ont diminué de presque 30%. Et on a tous fait l'expérience de composter les restes de nourriture dans le jardin. On n'a plus de poubelles domestiques, en vrai. C'est une réalité. Donc ça, c'est cette diminution des volumes qui fait qu'on va arriver à diminuer le coût de traitement des ordures. L'étape suivante, qui est en cours de réalisation, c'est la construction d'une recyclerie. Recyclerie qui est quasiment terminé, enfin c'est le bâtiment, le très beau bâtiment en bois brun, en bois sombre que vous voyez à la Marèche, laquelle a pour objet justement de faire en sorte que les objets ne soient plus mis en déchetterie, mais soient reconditionnés et réutilisée. Donc on est dans la partie vertueuse du cycle court, de la réutilisation et encore une fois de la diminution des volumes et des coûts de traitement, ce qui est quand même ce qu'on cherche. Un autre point qui est connu pour être affreusement cher, c'est les hydrocarbures. Alors, je vous rassure, le prix de l'essence ne va pas dans la poche de la mairie. Je vous le dis tout de suite. Donc, actuellement, l'ensemble des utilisateurs, on consomme à peu près 2600 m3 par an. C'est la page numéro 5 de la bande dessinée. 2600 m3 par an d'hydrocarbures, donc il y a de l'essence du super quoi, de voiture. Vous avez du gasoil pour le chauffage, vous avez un peu de gasoil pour la pêche, vous avez du diesel pour les voitures. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 10 ans, on consommait plus de 4000 m3. Aujourd'hui, c'est 2600. Et cet ensemble... Bah, c'est ce que vous payez lorsque vous faites le plein de la voiture à la pompe ou lorsque vous mettez du fuel dans la chaudière. Cet ensemble, il est payé à un opérateur industriel qui s'appelle la CIM, qui est l'opérateur qui exploite le dépôt d'hydrocarbures qui est derrière la gare maritime. Et alors la CIM, avec toute cette manne que vous leur donnez, enfin moi aussi... Mais en fait, ils ont quand même quelques coûts qui sont très importants aussi, parce qu'il faut qu'ils payent un bateau pour approvisionner les cuves. Parce que l'essence n'arrive pas toute seule à la nage sur l'île-Dieu, elle vient en bateau et il faut la pomper dans les cuves. La CIM, elle achète aussi les hydrocarbures déjà, au départ de Donge. Parce que le bateau vient de Saint-Nazaire. Et ensuite, la CIM, c'est un opérateur pétrolier, et c'est eux qui... traite avec les douanes, parce que les produits arrivent ici détaxés et ils sont taxés sur l'île, parce qu'évidemment dans ce merveilleux système français que nous aimons tant, la taxation du super, du diesel, de fuel oil domestique, c'est pas la même chose. Donc à chaque fois il faut que vous mesuriez le cubage qui va dans le camion, lui appliquer la bonne taxe, c'est quelque chose qui est transmis aux impôts, aux douanes, etc., etc. Enfin, c'est un vrai métier, si vous voulez. Et à l'arrivée, une fois qu'on a fait tout ça, la municipalité reçoit quelque chose qui est, suivant les années, suivant les travaux, entre 1 et 2 centimes par litre, qui nous permet d'entretenir les cuves qui sont propriétés de la commune. Et juste pour vous donner une idée, bon, ce sont des installations industrielles classées, hein, parce que c'est des produits dangereux, explosifs, enfin tout ce qu'on veut. Bien, juste pour faire la visite décennale des cuves l'année prochaine, c'est 50 000 euros. Juste pour aller voir que tout va bien. Enfin, on espère que tout va bien et qu'il n'y a pas de choses à... Mais juste pour aller voir, c'est déjà 50 000 euros. Alors, bon, une fois qu'on a parlé des hydrocarbures, eh bien, en fait, nous, on ne va pas les utiliser pour la mairie puisqu'on a acheté des petits bus électriques. Et vous avez vu donc que le système de transport public s'est rajeuni absolument d'un seul coup, puisqu'il ne fait plus de fumée noire à l'arrière des bus, et qu'on a des merveilleux petits bus électriques qui sillonnent l'île et qui, j'espère, vont la sillonner de plus en plus, et surtout et également hors saison, pour diminuer l'usage des véhicules et l'empreinte carbone de l'ensemble. Alors actuellement, si vous voulez, cet été, la billetterie, ce que vous payez, les 1 euro quelque chose ou 1,50 euro, je crois, le prix du ticket, lorsque vous montez dans le petit bus, ça rapporte à peu près 50 000 euros quoi, au nombre de passagers. L'achat des petits bus, c'est 1 million d'euros. Donc, vous voyez que là aussi, il y a besoin de l'action collective, de l'action municipale pour que les choses se fassent. Alors, bon... Comme on est entre nous, je vais quand même vous le dire, c'est que les 1 million d'euros, c'est subventionné à peu près à hauteur de 40% par l'État. Mais il reste quand même 600 000 euros à sortir des caisses. Ça, c'est du vrai argent. Alors là, pour le coup, on se fait un petit peu aider par des banques, parce que parfois, on emprunte aussi sur des choses comme ça. Et on est en train de... de négocier un type de prêt extrêmement novateur avec la Banque des Territoires, dont le taux d'intérêt est indexé, mais inversement indexé sur le prix de l'électricité. C'est-à-dire que votre prix d'électricité monte et notre taux d'intérêt va baisser. Bon, à un moment, ça, la plaisanterie s'arrête. Hein. On ne nous donne pas d'argent pour... Ça s'arrête, on est d'accord. Voilà, donc c'est juste pour vous expliquer très rapidement la mécanique. Et alors, si on sort un petit peu maintenant de la mairie, je vous invite à tourner la page pour aller à la page numéro 6. Bon, vous savez qu'on a une compagnie maritime. Enfin, on en a deux, mais il y en a une publique et une privée. Alors la privée, je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas censé connaître ses comptes, je ne les connais pas d'ailleurs. Mais la compagnie publique, ça je peux vous en parler un petit peu mieux. Alors la compagnie publique, bon, vous connaissez les trois bateaux, l'Insula Oya, les deux catamarans. En fait, qu'est-ce que c'est ? Les grandes masses, c'est 4 à 5 millions d'euros de recettes par an. De billetterie, de passagers. C'est un peu plus d'un million d'euros de marchandises, 500 000 euros de véhicules et puis 300 000 euros de trucs divers et variés. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que nous payons directement parce que les marchandises, bon, ok, c'est le supermarché qui les paye, mais vous le payez à la caisse, bien sûr. Et en face de ça, eh bien, 100 personnes, je vous ai dit tout à l'heure, enfin, il y a exactement 93, mais bon, c'est disons 100, c'est 5 millions d'euros de coûts de personnel. Ce sont des gens qualifiés, spécialisés, etc. Vous avez 2 millions de charges d'exploitation et 2,5 millions d'entretien des navires et de combustible. Vous faites l'addition, eh bien, il en manque. Et il en manque, et c'est précisément... ceci qui est la notion même de continuité territoriale. Vous voyez, c'est les 3 millions que le département injecte dans la compagnie maritime tous les ans pour la maintenir simplement à l'équilibre. C'est parce que quand le bateau doit traverser, parce que le bateau il traverse tous les jours, même le 15 janvier quand il y a 10 personnes qui montent dedans, le bateau il doit être là. Et il doit passer dans un sens et dans un autre, et le matin et le soir. Et ça, c'est un coût. Le bateau, il part, plein ou pas plein, avec ou sans marchandises, parce qu'il a une obligation de continuité, de continuité territoriale. Et c'est ça, c'est l'illustration de la grandeur et servitude du service public. Quoi. C'est à peu près ça. Et une fois qu'on a dit ça, comme vous savez, la régie... a commandé, la région en fait, puisque la compétence de transport est remontée maintenant aux régions et non plus aux départements, mais la région, donc Pays de Loire, a commandé pour nous un navire, l'Insula Oya numéro 3, qui devrait être livré à la fin de l'été 2022, et ça, c'est un investissement à 20 millions d'euros. Donc vous voyez, c'est beaucoup d'argent d'un seul coup. Alors bon, vous me direz, après le bateau, il va normalement naviguer pendant encore 30 ans, on espère. Ça, on est d'accord. Mais bon, c'est l'ordre de grandeur. Si on passe dans un autre, dans un domaine légèrement différent, qui est celui de la santé, vous savez qu'on a deux EHPAD ici, une centaine de résidents, une centaine de personnes qui travaillent, ce qui doit être un des meilleurs ratios de France, voire d'Europe. Mais le coût de tout ça est important. Si vous voulez, le coût des EHPAD... Oui, pardon. Bien sûr. Donc, les résidents des EHPAD payent la part hôtelière, si je puis dire, de l'EHPAD, ce qui correspond à peu près à 2 millions d'euros par an. C'est l'EHPAD le moins cher de la Vendée. Le département paye ce qui est relatif à la dépendance et aux frais de séjour. Donc ça représente à peu près 600 000 euros. Et l'Agence régionale de santé paye ce qui est du domaine du soin médical, ce qui représente à peu près presque 2 millions d'euros par an. Et si vous voyez cet ensemble, il y en a une petite moitié charge de personnel et une grosse moitié charge d'exploitation, à peu près. C'est ça. Donc c'est, là aussi, les masses sont importantes, si vous voulez. Ça, c'est pas des choses qui se... C'est pas du bricolage, quoi. C'est une vraie organisation. Et un EHPAD, ça tourne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Je survole encore l'hôpital, rapidement. Donc l'hôpital, c'est 10 médecins, 10 infirmiers, 10 aides-soignants et 10 personnels support en pleine saison. Coût de fonctionnement, 3 millions d'euros par an. Et on est quand même bien content de les avoir. Les pompiers, 4 professionnels, 30 volontaires, 10 saisonniers. Vous verrez, je ne sais pas combien de camions de grande échelle, de petite échelle, de moyenne échelle. C'est une vraie. Là aussi, c'est une vraie organisation qui a un vrai coût et qui fait quand même 500 interventions par an sur les quatre mois d'été. C'est beaucoup du secours à personne. Un dernier mot sur les services départementaux et étatiques. Donc le département, c'est l'eau qui nous arrive, Vendéo. La fibre par le CIDEV, qui est le syndicat de développement de l'énergie de la Vendée. C'est le département qui fournit les permanences d'assistance sociale, de PMI, de psychologie, de pédopsychiatrie. C'est la chambre de commerce et d'industrie du département qui gère le port et l'aérodrome, et puis les services de l'État, bon, qu'on connaît tous, Enedis pour l'électricité, Orange pour le téléphone quand il marche, le sémaphore, les phares et balises, et je me suis rajouté parce que j'avais oublié de les mettre, la poste, parce que s'il y a un bureau de poste qui est ouvert tous les jours, et une trésorerie, donc la direction générale des finances publiques. Voilà, ça vous donne un petit
panorama. Un très large panorama. Merci pour ces talents pédagogiques, donc d'exposition d'un système en fait administratif complexe. Alors là maintenant, on est encore au début de la nouvelle mandature. Il y a des grands projets. Certains sont lancés, d'autres sont à venir. Quels sont-ils, grands projets d'infrastructure, et comment vont-ils être financés ?
Alors, je vais laisser de côté, on en parlera après, les projets qui sont liés à la transition énergétique. Mais je dirais, pour ce qui concerne l'équipement de l'île, on a parlé tout à l'heure de la réfection de la mairie, bon, qui est en cours. Vous avez vu que la grue n'est plus devant la mairie, donc c'est un grand progrès. voilà. Donc la mairie devrait être inaugurée, disons, au début 2022. Alors, j'ose pas vous préciser le début, parce que vous savez, c'est glissant, tous ces trucs-là, toutes ces dates. Le pôle culturel, donc, le pôle culturel du Petit Chiron est en cours de construction. C'est là où se trouve la grue en ce moment. Le centre technique municipal a été inauguré il y a quelques mois. Et en fait, si vous voulez, les principaux équipements, disons, sont construits ou en cours de construction. Donc les enjeux du mandat actuel sont essentiellement les deux points suivants. On a un enjeu de logement. Et logement, ça veut dire accès au logement pour les résidents de l'île. Ça veut dire capacité à louer un appartement, une maison ou des choses comme ça. Ça veut dire capacité à prendre une autonomie vis-à-vis de la cellule familiale. Parce que aujourd'hui, compte tenu des prix du foncier, de l'immobilier que nous connaissons tous, l'accession à la propriété, en particulier des jeunes îlets, est en vrai pas possible. Donc il y a un vrai effort de réflexion, si vous voulez, pour mettre en place soit de l'habitat collectif, soit de l'habitat réversible, c'est-à-dire qui consiste à décorréler le prix du, si vous voulez, à séparer le prix de l'habitat du prix du foncier, soit à trouver des ressources pour que Et je vous invite tous, si vous avez un bout de garage dont vous ne savez pas quoi faire, réhabilitez-le, donnez-le en location à l'année. Parce que ça, c'est vraiment utile. Et si vous voulez, si vous avez 500 mètres ou 300 mètres carrés de terrain dont vous ne savez pas quoi faire, bah construisez une petite maison dessus où on puisse mettre une famille d'enseignants ou d'infirmières. Ça, c'est un vrai, si vous voulez, c'est un vrai sujet. Et c'est le sujet prégnant du mandat. En parallèle, il y a un souci de réhabilitation du quartier des usines, donc l'ancienne usine de l'Aspect et le bâtiment de l'autre côté qui a été abîmé par la tempête, où effectivement on a maintenant mandaté un assistant à maître d'ouvrage pour nous aider déjà à faire la synthèse de toutes les idées qui ont été émises autour de ce projet ces dernières années, parce que ça date pas d'hier matin, hein, comme sujet. Et puis proposer aussi à la mairie, aux élus et à la population différentes voies qui permettent d'urbaniser de façon cohérente et pensée, parce que là on raisonne à 50 ans d'avance. Hein. On a mis 30 ans maintenant pour acquérir tous les terrains qui permettent de faire le contournement de Port-Joinville. C'est ça le pas de temps. Hein. Ce n'est pas la semaine prochaine parce qu'on a claqué des doigts et qu'on s'est énervé en disant qu'il faut faire quelque chose sur l'Aspect. Non, c'est quelque chose qui se réfléchit et qui malheureusement va très lentement, je vous l'accorde. Donc ce sont, je dirais, ces deux points qui sont les plus importants hors sujet énergétique.
Alors, je pense que les sujets énergétiques, il va y avoir des questions. Et juste avant de donner la parole au public, je voudrais que vous nous disiez, parce que vous avez deux titres officiels et un titre un peu officieux, mais on peut en parler en fait entre nous, c'est compte tenu de votre passé, compte tenu de votre profil, je pense que vous êtes extrêmement précieux dans la municipalité pour faire le lien entre les résidents permanents et les résidents secondaires. Et l'année dernière, donc, en fait, vous avez été aux côtés du maire pour prendre l'initiative d'un questionnaire envoyé à tout le monde. Je ne suis pas sûr d'ailleurs que tout le monde en ait eu connaissance, mais un certain nombre quand même ont répondu pour faire savoir quelles étaient les expertises, les compétences de ceux qui souhaitaient d'une manière ou d'une autre être associés en participant à des groupes de travail ou en présentant des projets ou en étant effectivement en apportant en fait une expertise par rapport au développement de la mairie. Dans un contexte où il y a de plus en plus maintenant de résidents qui sont entre des résidents permanents et des résidents secondaires et qui, avec le développement du télétravail, peuvent passer une bonne partie de l'année sur l'île. Donc, je voudrais que vous expliquiez un petit peu quelle est votre démarche d'association, justement, des résidents secondaires qui sont très majoritairement représentés ici. Et je pense que ça sera un éclairage intéressant pour les questions qui seront amenées à vous poser.
Merci. Donc, en ce qui concerne la... Là, on a parlé de quelques projets là, qui sont en cours, l'hôtel de ville. Bon, je dirais tout ça, c'est des exécutions qui sont techniques. Bon, certes, on peut avoir une idée sur la perspective architecturale, mais je veux dire, on reste sur une exécution assez simple des choses. Maintenant, quand on se projette dans l'urbanisation, la réhabilitation du quartier des usines, quand on réfléchit sur le logement au sens large qui affecte chacun d'entre nous d'une façon ou d'une autre, je crois qu'on a vu là autour de l'année écoulée que on peut rien attendre de l'État central. C'est fini. Donc les solutions, elles viendront de l'intelligence collective. Mais parce que la mairie ne peut pas tout. On a un nombre limité d'agents, on a un nombre limité, enfin on a des savoir-faire qui sont présents, mais qui ne sont pas, on ne sait pas tout sur tout. Et c'est votre connaissance entre gens, savoir-faire et volonté de faire qui fait que les choses vont bouger. Parce que la mairie ne peut pas, les élus, les agents ne peuvent pas imaginer à l'avance toutes les préoccupations, ne peuvent pas forcément percevoir toutes les préoccupations des gens et ne peuvent pas imaginer les systèmes qui sont pertinents pour tous les cas de figure. Donc c'était le sens de ce questionnaire qui était déjà d'identifier les gens qui ont envie, parce que si on n'a pas envie, bon, il ne va rien se passer, hein, c'est normal, et les gens qui ont une compétence particulière. Alors, ça ne veut pas dire, et je m'excuse auprès des gens auprès desquels on n'est pas revenu immédiatement, ça ne veut pas dire que la compétence est immédiatement nécessaire à la mairie. Vous pouvez avoir un savoir-faire particulier, mais bon, on n'a pas forcément besoin juste maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pertinent ou qu'il ne sera pas pertinent, mais il n'est pas peut-être juste d'actualité. On est tout à fait d'accord. Mais il est clair que c'est l'initiative, c'est votre initiative entre gens qui ont un intérêt commun et qui vont se regrouper sur un sujet particulier qui fera que le traitement, si vous voulez, pourra être fait de façon extrêmement constructive entre les citoyens au sens large et la collectivité, enfin la municipalité au sens large également. Donc, si vous voulez, certes, on peut dire, voilà, on a, et c'est pour ça que je vous dis, on a ce sujet sur l'aspect, on a ce sujet sur le logement, donc on est évidemment preneur de contributions et d'expertise particulières d'urbanisme, d'architecte ou de choses comme ça, mais il y a aussi l'initiative citoyenne qui fait que vous, membre d'une association, habitant d'un quartier, aurez une idée, un projet en disant bah oui, ça c'est pertinent parce que pour le quartier, c'est ça qu'il faut faire. Ou c'est pertinent pour les enfants de l'école parce que c'est un sujet qui est intéressant. Et ça, tu veux sans votre intelligence, sans notre intelligence collective, la mairie ne peut pas tout. Donc, si vous avez un projet, je crois que le bon moyen de fonctionner, c'est de fédérer vos propres énergies et savoir-faire. Et à ce moment-là, on peut avoir, si vous voulez, un dialogue construit entre un groupement, si vous voulez, un groupe de citoyens et un certain nombre d'agents de la mairie. Projet énergétique, c'est ça ?
Ben, peut-être projet énergétique, en même oui, temps, oui, je pense ça. Que voilà, ça viendra peut-être dans les questions. Voilà, donc la parole est à vous.
Tout d'abord, merci pour votre exposé qui est vraiment très clair et très intéressant. Une question concernant les ordures ménagères.
Oui.
Pourquoi est-ce qu'on ne développe pas beaucoup plus l'apport volontaire, puisque vous avez expliqué que le coût principal, c'était la collecte ?
Ça, oui, c'est un des coûts principaux. Alors, c'est effectivement, c'est en cours. C'est en cours, c'est le sens de la recyclerie. Où c'est effectivement vous et moi qui allons apporter à la recyclerie ce qu'on ne souhaite pas garder, ce qu'on ne souhaite pas garder chez nous. Et vous aurez noté également qu'il y a un certain nombre de points de collecte. Vous savez, on met le verre, les journaux, qui ont été enlevés. Et c'est justement le sens de pouvoir dire que l'apport se fasse encore plus près du centre de déchets. Donc ça va bien dans ce sens-là.
Est-ce qu'on pourrait par exemple imaginer supprimer les poubelles jaunes ?
Il faut répéter les questions.
Oui, pardon. Alors vous dites que vous voudriez supprimer les poubelles jaunes chez vous ?
Non, la collecte.
Si vous voulez, après il y a un arbitrage, il y a un arbitrage à trouver entre peut-être avoir des conteneurs qui soient plus grands et donc ramassés moins souvent. Après, il y a un certain nombre de gens pour qui manipuler des grosses poubelles c'est compliqué. La disposition des lieux ne s'y prête pas forcément. Donc je crois qu'il y a un équilibre à trouver entre ce qu'il est nécessaire de collecter auprès des individus et effectivement de pousser à rapporter. C'est pour ça qu'il y a un point de collecte auprès des supermarchés, près du Super U. Quand vous allez faire vos courses, vous pouvez ramener vos emballages vides. vide ou votre verre. C'est tout à fait le sens de la démarche. Ça peut sûrement être encore optimisé, on est d'accord, on est au début du processus. Je vous en prie, madame.
Au précédent mandat de Bruno Nourry, vous aviez eu des crédits européens pour les investissements. Est-ce que vous les recherchez aussi sous ce mandat ?
Alors, donc, la question porte sur les crédits européens. Alors, la réponse est oui. En particulier, la recyclerie, vous verrez qu'il y a, une part significative de crédits européens. On a eu des crédits européens aussi pour le projet de terres agricoles. Alors, les crédits européens sont extrêmement sympathiques dans le concept. Ils sont très compliqués à attraper parce que le processus est très difficile et très lourd. Mais oui, effectivement, on suit tout ça de façon le plus rigoureuse possible. Oui, madame.
À 2006.
Oui, à peu près. Alors, en fait, il faut. Donc, la question porte sur la diminution de la consommation d'hydrocarbures sur les 10 dernières années. Effectivement, on consommait à peu près 4000 mètres cubes et 2500 aujourd'hui. En fait, il faut rentrer un petit peu dans le détail, si vous voulez, en ce sens que aujourd'hui, la consommation qui augmente, c'est l'essence, le super. Pas tellement à cause des voitures, à cause des bateaux de plaisance qui ont des moteurs de plus en plus gros et de plus en plus donc consommateurs d'essence. A contrario, le gasoil de la pêche a continué à diminuer parce qu'il y a de moins en moins de bateaux de pêche. De la même façon, le fuel domestique est structurellement en baisse. Voilà, donc ceci explique cela. Alors c'est vrai, il faut affiner un petit peu la lecture des chiffres. Oui. Alors, je vais tenter de reformuler parce qu'il y a plusieurs dimensions dans les questions qui sont complémentaires. Alors, sur le premier élément de la question était de dire bon, on veut bien contribuer, mais il faut quand même qu'on vienne nous demander notre avis. Oui, voilà. Absolument. Alors, on est tout à fait d'accord. Le point, c'est qu'on peut pas. Si vous voyez, il est assez difficile de demander un avis à tout le monde sur tous les sujets. Donc, parce que l'avis des uns et des autres est aussi, l'avis de l'un est aussi pertinent que l'avis de l'autre. Il n'est pas forcément motivé ou circonstancié. Donc c'est assez difficile. Je comprends votre impatience. Vous comprendrez que c'est un petit peu difficile à mettre en musique. Je crois que à partir du moment où vous avez, où les uns et les autres, nous avons un intérêt particulier ou un savoir-faire particulier, c'est le développement des liens entre la population qui est résidente de façon permanente, la population résidente secondaire, les agents de la mairie, qui fait que les gens se connaissent, peuvent se parler et peuvent élaborer des choses ensemble. Je n'ai pas de meilleure réponse à ce stade. Sinon, je ne serais pas là. La question, c'était volonté de toutes les parties. Je suis là. Je vous en prie, on en reparle après. L'autre question était portée sur le statut. Alors, bon, si vous voulez, vous êtes résident permanent, vous payez vos impôts sur l'île, vous votez sur l'île. Bon, c'est un droit. Vous êtes résident secondaire, vous payez quelques impôts comme sur l'île, comme tous les résidents secondaires de tout le monde. Vous pouvez venir voter sur l'île. Il n'y a pas de problème. C'est votre décision. Alors, sur l'histoire des tarifs ou des trajets ou des choses comme ça, Certes, l'Île-Dieu fait partie de l'association des îles du Ponant. Les problématiques des îles du Ponant sont communes sur certains sujets, ne le sont pas sur d'autres. Si on prend le cas de Molène, sur lequel il y a 75 habitants permanents à l'année, bon, leur problème de transport de passagers avec le continent, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'ici, où il y a 400, la compagnie Eurocontinent transporte 450 000 passagers par an, et la Vendéenne, pas loin de la même chose. Donc on n'est pas tout à fait, dans les mêmes ordres de grandeur et les mêmes problématiques. Les tarifs sont liés à ce que j'exposais tout à l'heure, à la notion de continuité territoriale. Les résidents permanents de l'île ont les mêmes droits, attentes que les gens qui sont sur le continent. Et c'est pour cette raison-là que le département et indirectement la région subventionnent cette continuité territoriale. Parce que le gamin qui est ici, qui a besoin d'aller voir le dentiste ou l'orthoptiste ou sur le continent, il n'a pas de raison d'être pénalisé par rapport au gamin du continent qui, lui, est plus proche du centre médical ou du centre de loisirs local. Donc c'est pareil sur les autres îles, on est tout à fait d'accord. Après, quel serait l'intérêt, enfin, et ça c'est une subvention, c'est une continuité, continuité territoriale, c'est lié à la notion de service public. Est-ce que la venue d'un résident secondaire qui a choisi d'avoir sa maison sur l'Île-Dieu doit être subventionnée par la collectivité? Je sais pas. Je comprends la question. Je suis pas sûr de la réponse. Et si on va expliquer à la région Pays de Loire, aux gens qui sont à l'est, là, dans la Sarthe ou je sais pas où, qu'il va falloir qu'ils subventionnent votre trajet, enfin notre trajet de résidence secondaire parce qu'on veut venir en vacances ici. La discussion avec les élus de la région va être un peu compliquée parce qu'ils ne vont pas voir l'intérêt immédiat de ponctionner les finances du département ou de la région pour un élément de confort, je dirais.
Quand même, les résidents secondaires apportent beaucoup à l'économie.
C'est une réponse, mais en même temps, la même région fait énormément de campagnes de communication pour faire venir des touristes. Moi, depuis quelques années, je suis assez étonnée de voir dans le métro, ça coûte très cher, et ailleurs, des campagnes de communication pour l'Île-Dieu.
Pour l'Île-Dieu, ah oui.
Avec un tourisme...
Pour la Vendée.
Ressortez les campagnes avec, on avait l'impression que c'était très bien, de manière extraordinaire.
Oui.
Tourisme-là, c'est une question. Est-ce qu'on balance un secondaire qui vient, qui vit, qui consomme, qui achète local, il rapporte moins que des touristes qui viennent
Je ne sais pas faire le calcul. Est-ce qu'on... Si on peut...
Voilà. Madame...
Ouais. Allez. Alors, la question porte sur le service après-vente d'Orange en matière de boîte Internet. Et effectivement, Orange demande à ses abonnés d'aller se changer leur matériel sur le continent parce qu'ils ne sont pas capables de... Alors, là aussi, la mairie ne peut pas tout faire. La mairie s'efforce de suivre le plus soigneusement possible avec Orange l'ensemble des dysfonctionnements et des réparations qui sont à faire au niveau du réseau. Bon, ça, on a des réunions régulières avec les sous-traitants d'Orange pour s'assurer que les connexions, les boîtes de jonction sont correctement réparées. Et même parfois, ça marche. Parfois. Donc, voilà. Bon, mais là, Alors, la mairie peut un tout petit peu quand même, en ce sens que la mairie a installé des postes de Wi-Fi public. Alors, au port, à la Citadelle et à Saint-Sauveur et je crois aussi à la Meule, donc sur lequel vous pouvez vous connecter en Wi-Fi, donc localement. Donc ça, c'est déjà un premier point. Alors, d'accord, c'est peut-être pas suffisamment connu, mais ça existe. Alors, il faut effectivement le faire connaître et l'utiliser. Bon, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est l'avènement de la fibre. Alors, la Vendée est un département qui est assez volontariste en matière d'équipement de la fibre. Et donc, aujourd'hui, et pour l'instant, le chantier est encore dans les temps. C'est le seul chantier qu'on ait sur l'île qui soit vraiment dans les clous, je crois. La partie nord de l'île, nord-ouest, si vous voulez, va être fibrée fin 2022. Et la partie Saint-Sauveur et le reste de l'île, fin 2023. C'est ça qui est prévu pour l'instant.
Oui, monsieur. Attends, il y avait... Oui,
madame.
Je sais que la population...
Alors, la question porte sur la petite enfance. Alors, je l'ai évoqué oralement en parlant du budget principal tout à l'heure, où effectivement, il y a différentes structures qui existent pour les enfants. Et ça commence à... Alors, je ne sais plus dans quel exagère. Il y a la baleine bleue, les trainbots, je ne sais plus très bien quoi et dans quelle tranche d'âge. Ce qui est sûr, c'est que grâce à ces structures, les parents peuvent travailler pendant la saison en étant sûrs que leurs enfants sont correctement et très correctement occupés, nourris, stimulés, tout ce que vous voulez. Il y a des tas de voyages scolaires qui se font où les enfants... Alors bon, là, l'année écoulée, c'est un peu compliqué, mais il y a eu traditionnellement, les gamins sont partis faire du ski en montagne. Vous avez des tas de tournois de sportifs extrêmement, extrêmement régulièrement. Je veux dire, l'idée, si vous voulez, de fondamentalement la structure jeunesse de la mairie, l'idée, c'est de pouvoir mettre en face de chaque enfant, mais jusqu'à sa majorité, de pouvoir mettre un adulte référent qui soit en dehors de sa cellule familiale. De
face...
Ah, elle est... Non, rassurez-vous, elle est dans le budget. Hein. Ça n'est pas une structure fantôme. Je prends la remarque. Je le mentionnerai. Je le mentionnerai. La question porte sur le projet des éoliennes. Alors, il y a un point fondamental à garder à l'esprit, c'est que le projet des éoliennes n'est pas un projet de la mairie. D'accord ? Le projet des éoliennes est un projet qui est conduit, mis en œuvre par l'État et donc qui s'impose à nous. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons fait un appel d'offres pour avoir un champ d'éoliennes entre Yeux et Noirmoutier. Ce n'est pas nous qui avons décidé de l'attribution du contrat en question. Non. Non. Non, non, on n'est pas du tout décideur de quoi que ce soit sur ce projet. Maintenant, dans le cadre de ce projet et de l'ensemble des projets éoliens actuellement en mer et probablement à terre également, il y a un ensemble d'engagements qui est demandé aux candidats, si vous voulez, aux sociétés d'énergie qui concourent sur ces projets, qui doivent prendre un certain nombre d'engagements quant aux retombées sur les territoires concernés. Donc, en l'occurrence, si vous voulez, il y a dans les contrats qui ont été signés entre l'État et la société d'exploitation des éoliennes qui s'appelle Émines Éoliennes en mer Yeux Noirmoutier, c'est le nom précis, qui est qui regroupe un ensemble de sociétés d'énergie dont Engie et quelques autres, ont une obligation de faire redescendre sur les territoires des activités, des emplois des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, là où on en est, c'est que ce projet est encore fait encore l'objet de recours juridiques devant le Conseil d'État. De recours dont on pense qu'ils ne seront pas un obstacle à la mise en place. Donc à partir de là, il revient maintenant à la société donc des éoliennes, au groupement Emine, à définir précisément sa stratégie contractuelle, c'est-à-dire de dire, ben voilà, je vais sous-traiter tels travaux à tel industriel qui lui-même va sous-traiter à tel autre industriel qui lui-même va travailler avec tel ou tel corps de métier ou entreprise locale pendant les 30 ans d'exploitation du parc. Et c'est à partir de ce moment-là que les obligations générales de retomber sur le territoire vont être traduites dans le détail au niveau de chacun des sous-traitants impliqués dans le projet pour que ces gens-là forment des gens de l'Île-Dieu ou de Noirmoutier, fassent appel à des entreprises locales qui seraient suffisamment compétentes et déjà formées pour ce faire, etc. Donc c'est tout ce processus qui est en train de se mettre en marche. Alors je suis d'accord avec vous, ce projet, on en parle depuis 2007, on est encore aujourd'hui en 2021, encore avec des recours juridiques devant le Conseil d'État. Bon, après, on peut en penser ce qu'on veut. C'est pas à la mairie de décider si l'éolienne c'est mieux que l'hydrogène et moins bien que le nucléaire ou ça doit être panaché avec le gaz. Non, c'est pas de notre compétence.
Non, mais est-ce que la mairie peut intervenir au niveau des retombées et demander de modifier le projet de retombées, contrôler les retombées, etc.
Alors la mairie peut évidemment. Alors la question c'est de savoir qu'est-ce que peut faire la mairie en vrai. La mairie peut suivre le plus précisément possible et s'assurer que les engagements qui ont été pris par la société de tête de projet sont correctement, en termes d'emploi, sont correctement déclinés au niveau des sous-traitants et pris en compte en termes de formation et d'information, etc. Voilà, c'est là où on commence à rentrer dans cette phase.
Est-ce qu'il y a des retombées financières?
Alors, en termes de retombées financières, le législateur, dans sa grande sagesse, a prévu que les projets éoliens, les sociétés de projets donc éoliens, payent une espèce de contribution aux communes qui sont concernées visuellement par les projets. En fonction de la distance, enfin il y a une équation de calcul qui est un peu compliquée et qui fait que lorsque le projet sera mis en place, effectivement, nous devrions, comme les autres communes du continental, nous devrions percevoir une certaine somme pendant la durée de vie du projet. Mais je ne veux pas le commenter à ce stade parce que les calculs ne sont pas définitifs, mais ce sont les ordres de grandeur, oui.
Et en matière de retombées d'emploi pour les lieux.
Alors j'ai deux questions en même temps en stéréo qui sont tout à fait remarquablement coordonnées. Savoir quelles sont les retombées en termes d'emploi. Écoutez, c'est ce qui nous appartiendra de suivre précisément. Les ordres de grandeur dont on parle, c'est plusieurs dizaines. Voilà, c'est ça dont on parle. Maintenant, je peux. Ah, pardon. Alors, les retombées en termes d'énergie pour l'Île-Dieu, c'est zéro. Là, c'est très clair. Alors, le concept de ces projets, c'est que l'énergie qui est produite est injectée directement dans le réseau national sur le continent. Mais bon, n'a aucun. Les électrons sont noyés parmi les autres électrons, mais ça ne nous apporte rien directement. Ça, c'est malheureusement, heureusement, mais c'est comme ça.
Mais alors, pour l'énergie de l'Île-Dieu, vous n'avez pas un projet de centrale solaire
Alors, et on va peut-être terminer là-dessus parce qu'on sait d'expérience qu'il est très très malsain de de tenir un résident de l'Île-Dieu trop éloigné de son apéritif passé midi et quart, donc on va abréger, mais sur le c'est résident de l'Île-Dieu, j'ai dit résident de l'Île-Dieu, oui, absolument.
Mais un peu de soleil qui se fait effectivement aujourd'hui désirer. Alors,
effectivement, l'Île-Dieu se prête assez bien au photovoltaïque. Vous savez probablement qu'il y a eu un projet de centrale solaire sur l'ancienne déchetterie des Corbeaux. Et nous sommes actuellement bloqués dans un nœud gordien réglementaire où d'un côté le ministère de la Transition écologique nous dit c'est un site classé, donc il y avait une déchetterie, donc vous touchez à rien pendant les 40 prochaines années parce que c'est classé et que c'est protégé. Et le même ministère de la Transition énergétique nous dit il faut faire des énergies renouvelables, Et quand on essaye de concilier les deux, eh bien, pour l'instant, on n'est pas encore arrivé à débloquer ce nœud gordien. Je ne sais pas comment on va le trancher, parce qu'il va falloir le trancher, mais c'est un sujet de réflexion.
Est-ce que le PLU vous permettrait de sortir?
Non. Non, pas du tout. Non, c'est un sujet. Pardon, il y avait...
Allez, oui. Quel serait l'intérêt réel d'avoir une centrale solaire sur l'île?
Eh bien, c'est de produire de l'électricité. Ça peut se stocker, mais en tout cas, ça soulage. Alors oui, la question était quel est l'intérêt d'avoir une centrale solaire? Alors l'intérêt d'une centrale solaire, c'est de produire de l'électricité. Si possible, d'attraper l'électricité au moment où elle est produite, parce que c'est là où on en fait le meilleur usage. Et sinon, on peut réinjecter l'électricité dans le réseau ou la stocker sur des batteries. Et pour terminer donc sur ces aspects solaires, donc vous avez dû entendre parler d'un projet qui s'appelle Harmonieux, qui est un projet d'autoconsommation collective dans le quartier de Kerpissotte et qui réunit entre 20 et 25 participants, donc une vingtaine de maisons. Il y en a une demi-douzaine qui sont équipées de panneaux solaires, une maison qui est équipée d'une grosse batterie de tampons, et les autres sont des consommateurs. Et l'idée, c'est de capter l'énergie solaire au moment où elle est disponible pour que cette énergie soit convertie en électricité et utilisée immédiatement par le consommateur à côté. Ça ne retourne pas sur le continent pour revenir par les lignes d'Enedis. Donc c'est ça qui est actuellement, ça a été inauguré il y a à peu près un an, et c'est une expérimentation qui continue.
Vous venez tout seul ou avec des industriels?
Non, alors là, c'est un sujet d'industriel, et je terminerai là-dessus, je ne prends plus de questions après. L'intérêt de l'Île-Dieu, et je crois que c'est ça qu'il faut retenir en termes énergétiques, c'est qu'on est suffisamment petit pour que les industriels, en l'occurrence Harmonieux, c'est Engie qui supporte ce projet, donc on est suffisamment petit pour que l'industriel puisse faire un projet du laboratoire à quelque chose, à une échelle qui reste gérable, donc on sait régler ce qu'il faut régler, mais on est suffisamment grand pour que les résultats de l'expérimentation en question soient extrapolables à des territoires plus importants. Donc c'est pour ça qu'en fait, les industriels de l'énergie en particulier nous aiment beaucoup. Et on en voit régulièrement qui viennent nous proposer des choses qu'on espère intéressantes. J'arrêterai ici. Je vous remercie.
Bravo et merci beaucoup, Michel, à la fois pour votre clarté et votre transparence. Donc, prochain rendez-vous et dernier rendez-vous, donc c'est avec Mgr Dominique Rézeau, c'est vendredi à la même heure, où il nous parlera un peu de toutes ses expériences diplomatiques.